Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique du Centre de recherche en civilisation canadienne-française. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF, visitez son site Internet. Fondé en 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire du Canada français. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français, qu'il met en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications, afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.
Donc, bonjour et bienvenue à vous tous à ce premier atelier des journées d'études sur l'immigration et les communautés francophones minoritaires du Canada. Enjeux, défis et possibilités. Ce projet est né d'une collaboration qui s'annonce très fructueuse entre la Chaire de recherche sur l'immigration et les communautés franco-ontariennes, dont la titulaire est Louisa Véronis, et le Centre de recherche en civilisation canadienne-française, dont je suis la directrice. Je vous remercie d'être ici si nombreux. Cela montre à quel point la question de l'immigration francophone est un des dossiers de l'heure. Avant de l'explorer, je cède la parole à notre estimé vice-recteur international et francophonie, Sani Yaya. À toi la parole, Sani.
Merci beaucoup, Lucie. Bon après-midi, mesdames et messieurs, chers collègues, professeurs, étudiants, chers membres de la communauté francophone et distingués invités. Avant d'aller plus loin, vous me permettrez de souligner que pendant des milliers d'années, les peuples autochtones ont habité, chassé, cultivé, commercé et voyagé sur les terres qui nous réunissent aujourd'hui. En cette ère de réconciliation, je crois qu'il est particulièrement important de réaffirmer l'importance de nos relations les uns avec les autres et de reconnaître que nous sommes toujours sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues en cette première journée de réflexion sur l'immigration et les communautés francophones en situation minoritaire. Ce sera l'occasion pour les panélistes d'explorer les enjeux, les défis et les possibilités qu'offre l'immigration à nos communautés. Je remercie les organisatrices de cet événement, en l'occurrence Lucie Hott, directrice du Centre de recherche en civilisation canadienne-française, et professeur titulaire au département du français, ainsi que ma collègue Louisa Véronis, professeur au département de géographie et titulaire de la chaire de recherche sur l'immigration et les communautés franco-ontariennes. Le thème d'aujourd'hui, les communautés francophones en situation minoritaire et la cohésion sociale dans un contexte de diversité, est un sujet d'actualité, vous en conviendrez. En effet, comment peut-on concevoir l'essor d'une communauté et précisément une communauté francophone en situation minoritaire, sans analyser le tissu social des membres qui la composent, ainsi que leurs besoins divers dans une perspective d'accueil et de vivre ensemble. Au cours de cette première journée, nous entendrons des chercheurs et des chercheurs chevronnés discuter des obstacles à la cohésion sociale dans un contexte de diversification par l'immigration et des possibilités à envisager afin de mettre en place des mesures structurantes adaptées aux différentes francophones en situation minoritaire. La capacité d'accueil en français et l'intégration sont à géométrie variable de Toronto à Ottawa, en passant par Sudbury. Louisa Véronis est une co-autrice du rapport produit pour le compte de la Fédération canadienne des communautés francophones et acadiennes sur la question, intitulé favoriser la cohésion communautaire dans un contexte de diversité. Ce rapport met ainsi la table. L'immigration est un enjeu clé pour le développement des communautés francophones en situation minoritaire. Des politiques et des pratiques ont été mises en place par les communautés francophones et acadiennes pour soutenir l'attraction, l'établissement, l'intégration et la rétention des immigrants d'expression française. Alors, que l'immigration constitue un facteur majeur dans le développement de nos communautés, plusieurs travaux ont été consacrés aux besoins des immigrants et aux capacités et structures des communautés en termes d'accueil et d'établissement. Nombre de personnes issues de la diversité vivent dans les communautés francophones partout au pays et prennent à bras le corps la défense du fait français en s'impliquant dans diverses associations. Ils enrichissent le discours francophone et les perspectives de développement grâce à leur vision. Au cours des ans, plusieurs associations ont été créées et celles-ci permettent de faire entendre leur voix. Le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones en est un bel exemple. Bien que d'un point de vue démographique, l'immigration soit pour le Canada ainsi que l'Ontario une source de stabilité économique, il n'en demeure pas moins que les communautés d'accueil se doivent d'être justement accueillantes. Selon Statistique Canada, l'immigration demeurera un moteur essentiel de la croissance démographique. D'autre part, la population immigrante fait face à une panoplie de défis structurels et d'intégration qu'elle peine à surmonter. Il m'apparaît donc crucial de s'attaquer à cette question et d'y faire face, car l'immigration dans les communautés francophones est une stratégie démographique du gouvernement fédéral. Identifier les éléments clés qui permettent de créer une cohésion sociale forte, ancrée dans des valeurs communes, laissant place à la divergence d'opinion, ne peut qu'enrichir la société dans son ensemble. Cette première journée donne donc le coup d'envoi à une série de réflexions pertinentes sur le rôle de l'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire. Alors, merci beaucoup d'être des nôtres. Bonne participation à toutes et à tous et à très bientôt. Merci.
Merci beaucoup, Sani, pour ce mot très recherché sur les travaux qui vont nous réunir pour nos trois ateliers. Merci d'être là. Je cède maintenant la parole à Louisa Véronise, qui présentera notre projet et animera l'atelier en remplacement de Nathalie Bélanger, qui ne peut pas être avec nous cet après-midi. Louisa Véronise est professeure agrégée au département de géographie, environnement et géomatique de l'Université d'Ottawa. Ses recherches portent sur les questions d'immigration et d'intégration, avec un intérêt particulier pour l'immigration francophone en contexte minoritaire. Depuis 2019, elle est aussi titulaire de la chaire de recherche sur l'immigration et les communautés franco-ontariennes. À toi, Louisa.
Bonjour, merci. Merci beaucoup, Sani, pour ce bel accueil et merci, Lucie. Je dois plus d'un merci à Lucie, car c'est elle qui m'a invitée à penser ce projet. Et j'aimerais souligner aussi la présence de plusieurs de mes collègues, dont Suzanne Huod, qui est mon accomplice dans l'étude de l'immigration francophone, avec qui nous avons déjà mené beaucoup de travaux. Tout cela est important parce qu'en fait, c'est ce qui a pavé le chemin vers ces trois ateliers. Et puis, quand nous avions pensé le projet en hiver 2020, avant la pandémie, nous voulions vraiment marquer ces 20 années d'intérêt pour l'immigration francophone, les nombreuses recherches, les pratiques, les politiques qui ont été développées et profiter de ce moment opportun pour en fait réfléchir où nous en sommes et où est-ce qu'on peut aller à partir d'ici. Donc, outre les défis et les changements apportés de la pandémie, je pense qu'au courant des 2-3 dernières années, nous avons aussi remarqué de nombreuses façons que la francophonie est parfois encore dans une position très fragile par rapport à ses institutions, sa présence, son rôle et ses interactions avec les autres communautés. Donc, on espère que toutes ces occasions sont en fait des moments pour réfléchir. Et ça me fait chaud au cœur de voir autant de participants à ces ateliers et la belle représentation non seulement de chercheurs et d'étudiants, mais aussi des membres de la communauté et du grand public. Et c'est exactement ce que nous voulions, en fait, une opportunité de rencontre pour réfléchir ensemble et on espère aboutir à des nouvelles idées, trouver des nouvelles manières, en fait, de réfléchir à ces questions. Nous avons pensé à trois ateliers autour de thématiques très ciblées. Le premier aujourd'hui se concentre vraiment sur la question de la cohésion sociale dans un contexte de diversification grandissante, comme Sani l'a dit, tant les possibilités de l'immigration, mais aussi encore certains défis qui demeurent. Le deuxième atelier qui aura lieu le 4 novembre se tournera plutôt du côté des institutions et en fait de l'architecture ou des structures que nous pouvons penser pour soutenir une francophonie. Et je pense que les événements de l'année passée, notamment autour des institutions postsecondaires et leur situation fragile, sont au cœur en fait de la francophonie. Comment pouvons-nous nous représenter et prendre des décisions pour nous si nous n'avons pas les institutions et la reconnaissance nécessaire? Le troisième atelier se veut vraiment une ouverture vers tous les avenirs possibles et un moment de réfléchir, d'imaginer, de rêver, en fait, qu'est-ce que nous voulons, et ensuite, on réfléchira comment on pourra y arriver. Pour aujourd'hui, nous commencerons avec une table ronde que nous avions prévue environ une heure. Nous aurons trois rondes de questions et j'aimerais commencer par présenter nos panélistes. Suite à la table ronde, nous avons prévu des discussions en petits groupes car nous sommes nombreux et donc pour faciliter les échanges et surtout pour réfléchir, peut-être en petits groupes, ce sera plus conductif à cela. Et nous aurons des facilitateurs et des preneurs de notes assignés pour ensuite revenir en plénière et échanger sur les belles idées qui auront été discutées dans les petits groupes. À la fin de la table ronde, il y aura aussi du temps pour des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les garder en tête et les poser à ce moment-là ou dans une certaine mesure, je ne sais pas si nous utiliserons le chat, les poser là, mais on pourra quelques questions tout de suite après la table ronde. Donc, j'aimerais commencer par présenter nos quatre panélistes et je les remercie chaleureusement de se prêter au jeu, de venir discuter avec nous et lancer en fait le bal avec leurs idées. Pour commencer, j'aimerais accueillir Kimberly Jean-Ferrens qui est depuis récemment la directrice en immigration francophone à la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Elle est passionnée par l'engagement communautaire et certains d'entre vous la connaissez peut-être déjà, elle a amorcé sa carrière à la FESFO où elle a eu l'occasion de travailler avec les jeunes francophones d'un océan à l'autre. Elle a aussi une belle expérience internationale, notamment à travers l'éducation internationale qui lui a permis de développer des partenariats avec des institutions de plusieurs pays, dont le Vietnam, l'Allemagne, le Mexique et le Brésil, et de collaborer avec de nombreux cégeps, collèges, universités et conseils scolaires. En deuxième lieu, il me fait vraiment grand plaisir de vous présenter Ibrahima Diallo, que probablement la majorité d'entre vous connaissez déjà, car il est très connu et je pense qu'il n'a même pas besoin de présentation, mais j'aimerais quand même prendre un moment pour souligner qu'il est originaire du Sénégal, a immigré à Winnipeg en 1984 et enseigne au département des sciences biologiques de l'Université de Saint-Boniface, où d'ailleurs il était aussi doyen de la faculté des arts et sciences. Il est très reconnu, pour dire le moins, pour son engagement communautaire envers la francophonie canadienne et l'immigration, en tant que président ou membre de nombreux conseils d'administration dans la Société de la francophonie manitobaine, la Table nationale de concertation communautaire et le Comité sur la modernisation des langues officielles. Il a aussi apporté beaucoup et enrichi à travers sa participation dans de nombreux colloques, tables rondes et conférences pour avancer les dossiers de l'immigration et de la francophonie canadienne. Il a enfin reçu de nombreuses distinctions honorifiques, la liste est vraiment longue, mais j'aimerais souligner une des plus récentes qui est comme membre des 100 associés francophones, aussi le prix de reconnaissance au Symposium international des cultures africaines et d'ascendance africaine parmi bien d'autres. Enfin, je tourne vers nos deux chercheurs. Nous avons aujourd'hui, il me fait très plaisir de rencontrer Judith Patouma, qui est sociolinguiste et didacticienne des langues, professeure agrégée au département des sciences de l'éducation à l'Université Sainte-Anne. Elle s'assure de la formation professionnelle des étudiants maîtres en didactique des langues. Ses champs d'intérêt dans la recherche sont la médiation langagière et culturelle, le plurilinguisme, la pluriculturalité, la construction identitaire et la didactique des langues dans des contextes diversifiés. Enfin et non moindre, une des personnes qui a influencé tout cela, ma chère collègue Suzanne Huot, qui est professeure adjointe au département de l'activité humaine et d'ergothérapie à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle a une maîtrise en géographie et un doctorat en santé et réadaptation dans le domaine de la science de l'activité humaine. Elle étudie de façon critique et qualitative la migration internationale et les communautés francophones en situation minoritaire, et donc l'immigration francophone est un de ses intérêts particuliers. Elle s'intéresse principalement à l'intégration sociale et culturelle, la participation sociale, la cohésion communautaire et le rôle des espaces francophones dans la vie quotidienne des immigrants et réfugiés d'expression française. Avec tout cela, nous commençons donc la table ronde et je vais lancer la première question. Nous aurons une vingtaine de minutes pour y réfléchir. Chaque participant aura 4 minutes pour y répondre et je me permettrai de vous interrompre malheureusement, même si je n'aime pas le faire, de sorte à nous garder dans les temps et pouvoir tout accomplir dans les heures qui nous sont données. La première question, selon vous, et cela peut être soit à travers vos expériences, votre travail communautaire ou vos recherches, quels sont les 2 ou 3 principaux défis et enjeux, donc pensons vraiment les questions les plus importantes, que confrontent les communautés francophones en ce qui concerne la cohésion sociale au vu de la diversification croissante par l'immigration? Je vais demander à Kimberly de commencer et ensuite on passera à Suzanne, Ibrahima et Judith et je changerai l'ordre pour chacune des questions, comme ça vous ne sentez pas que vous êtes toujours le premier à parler. Donc Kimberly, c'est à vous.
D'accord, merci Louisa pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de prendre part à cet événement. Tout d'abord, il est important de souligner que la réalité des communautés francophones est très différente d'une région à l'autre et la cohésion communautaire est un facteur clé de la vitalité des communautés francophones. Alors, je suis très contente que ce sujet de l'heure soit à l'agenda et j'ai bien hâte d'écouter vos perspectives. En termes de défis et d'enjeux, je dirais que dans un premier temps, on a un défi d'identité francophone. La définition identitaire des communautés francophones n'est pas toujours inclusive, ce qui contribue à ce que les personnes issues d'immigration n'aient pas nécessairement un sentiment d'appartenance à leur communauté. C'est une question de fond plutôt que de forme. Par exemple, en Ontario, on revient souvent à la question de franco-ontarien versus francophone de l'Ontario. Personnellement, je suis une personne immigrante qui s'identifie comme franco-ontarienne, fière franco-ontarienne, justement parce que je me sens inclue dans la définition de franco-ontarienne, inclue avec les spécificités de ma personne et de mon bagage, et je sens en fait que ce bagage est célébré. Les principes de par et pour sont très important, c'est un principe très important pour les communautés francophones. Donc, on veut des services, des initiatives par les francophones et pour les francophones. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce principe de par et pour comprend les personnes issues de l'immigration, les personnes issues de la diversité? Dans un deuxième temps, je dirais que nous avons également un enjeu de représentation. Les personnes issues d'immigration ne sont pas assez représentées dans les différentes sphères des communautés francophones, que ce soit au niveau de la représentation politique, les conseils d'administration des associations communautaires et des entreprises privées, que ce soit au niveau de l'obtention de postes de gestion, au niveau des conseils scolaires, obtenir des postes d'enseignants ou de direction d'école, que ce soit au niveau des entreprises. Les personnes issues de l'immigration, pour la plupart, n'ont pas le patrimoine intergénérationnel souvent nécessaire pour pouvoir se lancer en affaires. Donc, on ne peut pas parler de cohésion sociale sans adresser les questions d'iniquité et de discrimination, les questions de racisme systémique. Dans un dernier temps, on peut également discuter de l'enjeu des ressources. La cohésion communautaire requiert des investissements à tous les niveaux de gouvernement. Il y a un manque de ressources à la disposition des communautés qui ont la volonté de cheminer sur la question de l'inclusion. Et les différents paliers de gouvernement doivent créer des programmes pour pallier à ces besoins afin d'augmenter la participation sociale des personnes issues de l'immigration. Merci.
Bravo, merci beaucoup de garder les temps. Donc, Suzanne, maintenant un point de vue de chercheur sur la question.
Merci, Louisa. Je crois que certains de mes points vont faire écho à ceux qui ont été soulevés par Kimberly, mais peut-être d'une façon un peu différente. Donc, moi, ce que je partage aujourd'hui est informé par environ 6 études qui ont été menées dans 5 villes, donc Dunedin et Ottawa, en Ontario, Vancouver, en Colombie-Britannique, le Winnipeg, en Manitoba et le Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et ces études ont été menées au cours des 20 dernières années en collaboration avec une équipe de recherche interdisciplinaire, donc avec Louisa Véronis, mais aussi avec Leila Salle, Nathalie Piquemal, Leila Zelama, et avec l'aide d'une coordonnatrice de recherche, Anne-Cécile Delès. Donc, c'est une grande équipe qui a mené des études financées par l'IRCC, la FCFA, le CRSH et les voies vers la prospérité. Donc, c'est vraiment un programme de recherche. Donc, je voulais juste faire certain de dire que c'est pas juste mes idées à moi. Ça vient d'un travail de collaboration important au cours des années. Donc, la recherche existante suggère qu'il est nécessaire de créer vraiment plus de connexions au sein de la communauté, de renforcer les liens entre les immigrants et les communautés d'accueil. Mais comment le faire? Donc, certainement, il y a des enjeux clés et quelques-uns de ceux qui ont été soulevés dans nos collectes de données et l'invisibilité des communautés due à l'anglo-dominance hors du Québec. Donc, à cause de cette invisibilité, l'importance des espaces communautaires, que ce soit des espaces physiques ou virtuels, numériques, deviennent très, très importants et agissent un peu comme des phares dans un océan anglophone pour que les francophones puissent se retrouver. Donc, entrer par la porte, rencontrer quelqu'un qui parle la même langue qu'eux. Donc, le genre d'espace communautaire qui ont été soulevés comme étant très importants sont les lieux de travail francophones. Donc, le fait d'être capable de travailler en français peut aider à la cohésion communautaire parce que les gens sont vraiment impliqués au sein de la communauté, les écoles, donc primaires et secondaires, ainsi que les institutions postsecondaires comme les collèges et les universités, les espaces communautaires comme les centres culturels et les associations à but non lucratif, les organismes porte-parole, etc., ainsi que les lieux de culte comme les églises, les mosquées, donc les espaces où les gens ne partagent non seulement une langue, mais aussi certaines valeurs communes. Et ce qu'on a retrouvé, c'est qu'au fil des années, ces espaces communautaires ont subi un peu une hybridisation face à la diversification démographique, ainsi que le changement dans la façon dont les programmes et les services sont financés. Donc, on a davantage de collaboration entre les organismes francophones dans les communautés où les gens doivent vraiment éviter un dédoublement de services, mais qui créent ensemble des genres de guichets uniques, donc des endroits où les gens peuvent entrer se faire servir en français pour par écho au principe de par et pour. Mais au-delà de l'importance des espaces communautaires pour éviter cette invisibilité, on a aussi trouvé des distanciations socio-géographiques. Et donc, ce qu'on veut dire par cela, c'est que il y a vraiment, à un certain point, quelques manques de cohésion, où les gens ne sont pas toujours ensemble pour une raison ou une autre. Et donc, par exemple, comme Kimberly l'a déjà mentionné, un manque de représentation, la présence de formes de discrimination y inclut le racisme à différents niveaux, inclut le niveau systématique. Il y a des gens qui ont mentionné un manque d'ouverture dans les systèmes scolaires, spécialement pour le personnel issu de l'immigration. Donc, le fait de ne pas être nécessairement capable de se trouver un emploi comme enseignant dans le système scolaire francophone. Et aussi, au niveau géographique, moi étant dans la région du Grand Vancouver, le coût de vie est très élevé et donc il y a plusieurs gens, surtout qui ont peut-être des défis financiers à cause du genre de discrimination pour se trouver un emploi, ça devient difficile. Donc, les gens habitent vraiment dans les banlieues, mais les services sont concentrés plutôt au centre-ville. Et donc, il y a vraiment cette distance de quasiment 2 heures en autobus pour être capable d'accéder à ces espaces francophones-là. Donc, ça devient vraiment difficile au niveau juste physique, géographique dans ces villes-là. Et donc, ces défis peuvent vraiment entraver le développement d'un sentiment d'appartenance qui est vraiment une caractéristique essentielle de la cohésion communautaire. Donc, ce que les gens...
Oh, c'est merci, temps? Suzanne. Oui, ton temps
super, est j'attends. Écoulé. J'attends donc, la discussion.
Garde tes bonnes idées pour tout à l'heure. Nous passons maintenant vers Ibrahima pour qu'il partage avec nous vraiment son point de vue qui est historiquement ancré et son expérience très engagée dans plusieurs facettes de la communauté.
Et merci, Luisa. Merci, Lucie, pour cette invitation. Je ne suis pas un chercheur chevronné comme mes collègues qui viennent de parler. Je suis plutôt un témoin depuis presque plus de 30 ans de l'évolution de nos communautés francophones. Je vis à Winnipeg et je dois vous dire que quand moi je suis arrivé, durant les 5, 6, même 7 dernières années, premières années de mon séjour ici, je voyais déjà des évolutions. Mes enfants dans les écoles ici étaient les seuls qui étaient bruns, si vous voulez. Alors, donc, j'ai vu ça. Et aujourd'hui, les enfants dans les écoles représentent des enfants qui, de couleur, disons, 30 à 35% dans nos écoles francophones d'ici. Je dois vous dire d'abord, en regardant le titre de cette question, quand j'ai vu cohésion sociale et diversification par l'immigration, j'ai sursauté. Parce que pour moi, c'est deux mélanges qui me semblaient presque exclusifs quand on les met comme ça. Mais j'ai quand même compris que les communautés d'accueil ont été à un certain moment contraints de s'ouvrir. On a fait appel, je pense que c'est Kimberley qui en parlait, des appellations. Il y a eu un développement à ce niveau-là. On parle de la Fédération de la Francophonie de la Colombie-Britannique, Assemblée communautaire française, Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, Société de la Francophonie manitobaine. Pour moi, c'est déjà un élément d'ouverture. Et parce que ces changements de nom-là ne se sont pas faits sans lutte. Alors, donc, ma perspective est une perspective d'évolution et je pense que les communautés immigrantes, et particulièrement celles qui viennent d'Afrique, cela a été signalé, toutes les difficultés qu'ils ont eu à trouver, qui représentent une minorité dans la minorité, qui elle-même a été minorisée par d'autres, eh bien, c'est un très, très, très grand défi. Et je pense que j'ai été membre du comité directeur du sommet de la francophonie en 2006, où on avait exploré les chantiers. 2006, 5 chantiers qui étaient explorés. Le premier de ces chantiers-là, c'était notre population. Déjà, on en parlait. L'immigration est un élément. L'appui à la famille, à la petite enfance, ça a été souligné ici. La transmission des français et les identités. Parce que si on pouvait miser sur une identité qui nous est propre, tous collectivement, c'est la francophonie, c'est le fait de parler le français, indépendamment de notre origine. Ça, c'est déjà un élément fédérateur. L'autre élément qui avait été aussi signalé, c'est la question de l'espace. La francophonie en situation minoritaire, eh bien, a besoin d'un continuum de services, de programmes structurants et de langues. Elle a besoin d'être visible. Alors, donc, ils ont un défi que nous aussi, en tant qu'immigrants, des fois, quand je dis nous aussi ou les autres, je ne sais plus où je me trouve parce que j'ai passé plus de temps ici au Canada que dans mon propre pays. Nous avons besoin aussi de cette présence dans l'espace. Notre influence, l'influence des francophones, comment cela se fait que les francophones en situation minoritaire, on n'a pas l'impression qu'ils sont présents dans l'échiquier national. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne pèsent pas lourd en termes de voix. Si vous regardez les communautés sikhs, ils représentent à peine 2% de la population, ils ont 4 ministres. Alors donc, il y a un élément à ce niveau-là qui est très, très, très important et qui te permettra d'assurer aussi notre présence dans l'espace et de contribuer à la communauté. Et il y a un dernier élément que je voudrais signaler ici qui avait été aussi identifié, c'est notre développement collectif. Et ça, c'est sur le plan de l'économie, c'est-à-dire de l'économie sociale, communautaire et en termes de ressources humaines. Tout le monde parle aujourd'hui de la pénurie en main-d'œuvre. Donc, il y a des éléments qui sont là, il y a des ingrédients qui sont là qui nous permettent de bâtir quelque chose pour construire notre avenir en commun, lié par la langue et dans la diversité. Donc, ce n'est pas incompatible, en fait. Alors, ce que je pouvais dire, mais en termes d'immigration, évidemment, attirer, retenir, c'est un élément fondamental. On ne peut pas amener des gens ici qui ont des tas de qualifications, on les jette à la merci des organismes professionnels et on vous dise, et qu'on leur dise « épanouissez-vous », ce n'est pas possible. Donc, il y a un grand, grand effort à faire à ce niveau-là et que ces gens-là aussi aient une activité dans les organismes, ça a été souligné, les organismes communautaires, il faut qu'ils puissent aussi, qu'on leur laisse aussi de la place pour pouvoir comprendre la communauté d'accueil et aussi contribuer. Alors, je voulais juste jeter ça sur la table en attendant. Et l'élément le plus fondamental, évidemment, c'est l'emploi. Et il faut que l'individu puisse mettre le pain sur la table pour ses enfants. Et l'école, nous l'oublions pas. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Nous sommes contents de compter avec votre expérience. Enfin, Judith, de votre point de vue, quels sont les majeurs défis auxquels nous devons penser?
Tout d'abord, je vous remercie, Lucie et Luisa, de m'avoir invitée à cette table ronde. C'est vraiment pour moi un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai trouvé que cette question était un peu difficile parce qu'il y en a plus que deux ou trois. Donc, j'étais OK, il faudra vraiment que je réduise les défis. Donc, tout d'abord, j'aimerais dire que j'ai consulté différents documents et puis aussi la recherche. Et selon le plan d'action pour l'immigration francophone en Nouvelle-Écosse 2019-2021, la Nouvelle-Écosse a accueilli plus d'immigrants que jamais. Donc, à peu près, ils estiment à 5970 nouveaux résidents permanents. Et la proportion de ces immigrants francophones est juste de 300 au cours des 5 dernières années. Donc, ça vous montre la proportion des francophones en Nouvelle-Écosse. Donc, je trouvais que il y a eu vraiment une bonne transition parce que moi, je vais beaucoup plus axer sur l'école, étant donné que je suis dans la formation professionnelle des maîtres. Et ce qu'on constate, c'est vraiment une méconnaissance de la culture des immigrants et aussi une méconnaissance de la culture d'accueil. Donc, il semblerait qu'il y ait un déséquilibre à ce niveau. Donc, à mon sens, un des plus grands problèmes, ça va être le problème linguistique, étant donné que les immigrants viennent de la diversité, pas nécessairement de la francophonie. Ça pose des problèmes vraiment de ressources, d'infrastructures pour accueillir et ensuite pour la scolarisation en français. Le manque de connaissances sur le fonctionnement du système scolaire, ce n'est absolument pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et puis, ça va dépendre des pays d'origine, sur les types d'enseignement dans les écoles, la durée des enseignements, les congés scolaires, les horaires scolaires. C'est vraiment... je trouve que la société d'accueil ne s'est pas penchée assez sur ces difficultés-là, prendre pour acquis qu'on va s'adapter quand on arrive, ce n'est pas aussi facile que ça. Et aussi, les difficultés socio-économiques, par exemple, il y a dans les immigrants, il y en a très peu qui savent utiliser les nouvelles technologies et aujourd'hui, donc on constate, les nouvelles technologies sont vraiment un point d'entrée dans l'enseignement-apprentissage. Tout est en ligne, les évaluations... donc ça aussi le système d'évaluation c'est tout aussi un apprentissage à connaître et le poids des traditions ça se passe pas nécessairement de la même façon à la maison qu'on le penserait dans la culture d'accueil. Donc il y a par exemple le droit d'aînesse, il y a une hiérarchie traditionnels dans les membres de la famille qu'on ne peut pas nécessairement voir dans la culture d'accueil, un respect différent. Donc, il y a différentes difficultés où, s'il y avait plus de connaissances, donc de médiation sur la culture de l'autre et vice-versa, bien évidemment, ça permettrait de résoudre certaines difficultés. Il faut dire aussi qu'en Nouvelle-Écosse, l'immigration est récente, donc ça expliquerait aussi un manque de connaissances et d'infrastructures à ce niveau-là. Mais on peut voir aussi une volonté des écoles, des conseils scolaires à pallier à ces difficultés. Donc, sans la volonté d'intégration et sans la volonté d'accueil, à mon sens, on ne va nulle part. Et étant donné que cette volonté est là, donc c'est vraiment déjà un gros pas vers le futur et l'accueil des immigrants à l'école. Donc, une autre des difficultés, c'est l'emploi. Donc là, comme je dis, c'était vraiment une bonne transition. L'emploi va de pair avec la langue, si les langues ne sont pas maîtrisées, donc que ce soit l'anglais ou le français, puisqu'on est dans une province majoritairement anglophone. Donc, ça pénalise nos immigrants et aussi ça pénalise l'immigration vraiment dans notre province.
Merci. Oui. vous êtes arrivé juste au bout de votre temps. Merci. Et en fait, vous pointez déjà vers la prochaine question qui concerne en fait les possibilités ou les modèles de cohésion sociale que nous pourrions envisager pour les communautés francophones alors qu'elles accueillent de nouveaux locuteurs de la francophonie internationale. Et dans votre identification de défis et d'enjeux, vous avez déjà pointé à des possibilités ou du moins des idées. Et j'aimerais faire appel à Ibrahima pour commencer, vu que Ibrahima, vous avez déjà vu l'évolution de l'expérience, des pratiques et des politiques. Là où nous sommes rendus, que voyez-vous comme possibilité ou modèle possible de cohésion sociale? Donc, on vous donne 4 minutes pour réfléchir à cette question et nous continuerons la conversation. Donc, on vous donne que 4 minutes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup à dire.
Merci beaucoup. Les modèles qu'on peut imaginer pour la cohésion sociale dans les communautés, évidemment, je prends ici l'exemple du Manitoba, où, par exemple, pour l'immigration francophone, on a dû mettre en place des structures d'accueil. Et ces structures d'accueil, que ce soit l'accueil francophone ou bien aussi avec les réseaux d'immigration francophone, les francophones ont eu leur propre structure pour accueillir d'autres francophones. Parce qu'avant, c'était les communautés, organismes anglophones qui s'en occupaient. Et aussi, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, on ne peut pas tout confier à des structures. Il faut aussi que les communautés, on dit que ça prend une communauté pour accueillir un immigrant ou des immigrants. Donc, les communautés en tant que telles aussi doivent être un terreau qui permettra à ces immigrants-là de s'implanter, d'éduquer leurs enfants. On a parlé tantôt de l'école. Ça, c'est important. La plupart du temps, quand vous entendez parler d'un immigrant, je suis venu pour les enfants. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Un immigrant qui voit son enfant s'épanouir à l'école, il est déjà conquis. Donc, il y a différentes façons de le faire. Il n'y a pas une solution unique. En soi, c'est un ensemble d'initiatives qu'il faut prendre. Et de cette façon-là, je pense que l'emploi est réglé, la question de l'intégration sociale, culturelle. On a beaucoup d'immigrants ici maintenant qui sont des artistes, qui représentent la francophonie manitobaine à différentes instances. C'est ça aussi la question qu'il faudrait bien, analyser et voir comment est-ce qu'on peut élargir cette question-là. Et pour ça, je pense qu'on a été parmi les premiers au Manitoba aussi à mettre en place ce qu'on appelle au Manitoba, au Canada, à parler de toute la question de l'agrandissement de l'espace francophone. Alors ça, ce sont des choses, je crois, qui permettent de pouvoir asseoir davantage les communautés francophones. Et là, on y met pêle-mêle les gens qui sont bilingues, on y met pêle-mêle les gens qui viennent des écoles d'immersion. Et je dois vous faire une petite, un témoignage. En 2008, j'étais aussi membre du conseil d'administration de la SFM. on se pose la question, est-ce que les gens qui viennent des écoles d'immersion peuvent être membres de la société francophone, de la société franco-manitobaine? Maintenant, ça, on n'en parle plus. Donc, la question de l'ouverture est extrêmement importante. Qu'est-ce que l'immigrant perçoit? Est-ce qu'il se sent accepté? Est-ce que ses enfants sont acceptés? Et à partir de là, on peut bâtir bien de choses. L'emploi en est un. Bon, il y a toutes sortes d'éléments sur lesquels nous pouvons certainement discuter au cours des prochaines minutes. Mais je pense que c'est très, très, très important.
Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Suzanne qui, suite à nos recherches, peut-être a aussi des idées à partager.
Oui, bien sûr. Donc, selon les résultats de nos études, ce qu'on a trouvé, c'est que les gens participent et vivent leur francophonie dans différents espaces, comme je l'ai mentionné auparavant. Donc, que ce soit des espaces scolaires, professionnels, de loisirs, etc. Et leur sentiment d'appartenance peut varier d'un espace à l'autre, dépendant du niveau d'inclusion au sein de ces espaces-là. Un autre élément, c'est de scolariser ses enfants dans le système francophone ou d'avoir un emploi dans la communauté semble vraiment permettre un plus grand sentiment d'appartenance. Cependant, pour les immigrants, le sentiment d'appartenance peut vraiment être fragilisé par, évidemment, la discrimination ou ce que les gens ont discuté, c'était l'instrumentalisation de l'immigration. Donc, on doit, comme Kimberly l'a mentionné, assurer une meilleure représentation de la diversité dans les postes de décision et en lien avec toutes les problématiques communautaires et non seulement en lien avec les enjeux de l'immigration ou des communautés ethnoculturelles. Donc, les connaissances vont au-delà du vécu personnel et doivent être mieux représentées à tous les niveaux de la communauté. Et aussi, on doit mieux soutenir les entrepreneurs immigrants francophones dans les communautés. Donc, pour la cohésion communautaire, il faut vraiment en faire un projet de société. Et c'est vraiment ça qui a ressorti lors de nos discussions au sein des différentes communautés, qu'il y a quand même un besoin de coordination, mais que les gens de la communauté doivent vraiment y participer. Donc, ça nécessite un effort concentré de la part de toutes les parties prenantes, que ce soit des membres individuels de la communauté, les représentants des organismes, des associations porte-parole. Donc, c'est vraiment un effort, disons, grassroots que ça prend, qu'on doit éviter la dynamique TLM. Les gens ont parlé de cette dynamique de toujours les mêmes, qu'on doit vraiment agrandir les voix qui sont incluses à ces tables de décision. Donc, des progrès ont déjà été faits, et surtout récemment, comme les autres en ont parlé, mais des efforts restent à faire. Donc, ce serait vraiment de commencer à renforcer ou améliorer davantage les aspects qui ont été identifiés comme étant des facteurs attrayants des communautés francophones en situation minoritaire. Donc, pourquoi est-ce que les gens sortent de chez eux et viennent au centre communautaire? Qu'est-ce qui les attire? Donc, identifier ces dynamiques-là et les renforcer, ainsi que les facilitateurs des différentes formes de participation sociale et de cohésion sociale. Donc, promouvoir davantage des opportunités de parler français au sein de différents espaces, assurer l'implantation de la communauté, surtout en Colombie-Britannique où qu'il y a, l'histoire est un peu différente, ou le contexte historique, disons, assurer une reconnaissance par les autres niveaux gouvernementaux, donc municipal ainsi que provincial et autres, et assurer vraiment le dynamisme de la communauté. Lisa, j'imagine qu'il commence à me manquer de temps.
Tu as encore 40 secondes.
Donc, un dernier point, que les informateurs clés ont vraiment mis l'emphase sur une définition de la cohésion communautaire qui était centrée sur des concepts d'entraide, de solidarité et de collaboration autour d'un ou plusieurs buts communs, mais également assurer une ouverture à l'intégration et à la diversité issue de l'immigration.